VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, affrontement meurtrier dans le nord de la Centrafrique. Nouvelle attaque de femmes kamikazes à Maïdougouri au Nigeria. 32 djihadistes tués dans le Sinaï après une offensive de l'armée égyptienne. Le pape souhaite le dialogue avec les protestants et les orthodoxes. Également, dans un peu plus de 10 minutes, le journal du Mondial présenté par Yacouba Ouédraogo. Mais d'abord, le journal. En Centrafrique, des affrontements ont éclaté hier soir à Ndélé, dans le nord du pays. Ces combats entre deux groupes armés issus de l'ex-rébellion Séléka dominante musulmane ont fait plusieurs morts. Le point avec Idriss Fall.
Selon Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique FPRC et le mouvement patriotique pour la Centrafrique MPC ont combattu durant une heure. Depuis, la situation s'est calmée, a-t-il ajouté. Il n'y a pas de bilan précis, mais des témoins affirment que plusieurs civils et combattants ont perdu la vie. Des mésententes entre Arabes et Rungas, les deux groupes ethniques associés au MPC et FPRC, ont dégénéré en affrontements. Ndélé est l'une des bases du FPRC présent dans le nord-est du pays, tandis que le MPC est établi dans le nord-ouest le long de la frontière avec le Tchad. À la mi-avril, ces deux groupes armés d'ordinaire alliés avaient tenu une réunion à Kagabandoro pour mettre en place une coordination militaire. Ils avaient même menacé de descendre sur Bangui à la suite des affrontements meurtriers à PK5, le quartier musulman de Bangui.
Au Tchad, les magistrats, avocats, notaires et huissiers de justice ont annoncé qu'ils arrêtaient leur mouvement de grève entamé fin mai pour protester contre des violences dont un avocat et ses clients avaient été victimes dans le sud du pays. Leur syndicat a affirmé que l'essentiel de leurs revendications avait été pris en compte. Dans le nord-est du Nigeria, 15 personnes ont été blessées par deux femmes kamikazes qui ont tenté d'attaquer un marché proche d'une base militaire. Le point avec Morgan Gayek.
Des soldats ont tiré sur une femme qui tentait d'entrer dans le marché près de la base d'artillerie de Maïdougouri. Edet Okon, porte-parole de l'État de Borno, précise que les explosifs qu'elle portait ont détonné quand elle a été touchée par les tirs. Une autre femme s'est fait exploser dans un rickshaw, tricycle utilisé dans les transports publics. Les deux femmes sont mortes sur le coup et 15 personnes ont été blessées. Les marchés sont souvent la cible d'attaques suicides, souvent menées par des femmes ou des jeunes filles. Lundi, 9 soldats ont été tués à Maïdougouri lors d'une attaque attribuée à Boko Haram. Les fêtes de la fin de Ramadan ont aussi été endeuillées par plusieurs attaques qui ont fait au moins 43 morts.
En RDC, Emmanuel Luzolo Bambi, conseiller du président Joseph Kabila, chargé de la lutte contre la corruption, affirme que le pays perd 15 milliards de dollars par an en raison de la corruption. Un chiffre qualifié de fantaisiste par un ancien ministre congolais qui a requis l'anonymat. Le budget 2018 de la RDC s'élève à environ 5 milliards de dollars, dont la moitié est financée par des partenaires de ce pays extrêmement riche en ressources naturelles. La justice française a confirmé le non-lieu dont a bénéficié Wenceslas Munyeshyaka, un prêtre rwandais installé en Normandie qui était visé par la plus ancienne plainte en France concernant le génocide de 1994 au Rwanda. Les juges d'instruction du pôle Crimes contre l'humanité avaient estimé en octobre 2015 que sa passivité face au massacre ne pouvait suffire à l'accuser de génocide et à le juger devant la cour d'assises de Paris, malgré le rôle trouble qu'il avait joué dans sa paroisse à Kigali. Les dirigeants des États d'Afrique de l'Est sont à Addis-Abeba pour donner une nouvelle impulsion au processus de paix au Soudan du Sud. C'est la première rencontre en 2 ans entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le rebelle Riek Machar, mais le contenu des discussions n'a pas été communiqué. 32 djihadistes ont été tués dans le Sinaï égyptien. C'est le bilan de l'opération lancée depuis février contre la branche locale du groupe État islamique. Des précisions avec Irénée Herman Oumbo.
L'offensive lancée par l'armée égyptienne a permis d'exterminer 32 éléments de la branche locale du groupe État islamique dans la province du Sinaï. Selon l'armée égyptienne, en dehors de ces takfiris, ce qualificatif pour désigner les djihadistes, 12 autres ont été arrêtés. Les forces de sécurité ont également saisi des armes et des munitions dans des repères et dépôts des djihadistes. L'armée mène depuis le 9 février une vaste opération baptisée Sinaï 2018 qui vise à nettoyer le nord et le centre du Sinaï du terrorisme. La péninsule est le théâtre d'une insurrection d'une branche locale du groupe État islamique. Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sissi avait donné 3 mois à ses forces de sécurité pour rétablir la sécurité dans la région. Ce délai a été depuis prolongé.
Plus de 300 migrants ont été secourus par les gardes-côtes libyens au large de la côte ouest du pays, alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Les migrants, originaires de 12 pays africains, se trouvaient à bord de 2 grandes embarcations pneumatiques dont les moteurs étaient tombés en panne. Les gardes-côtes n'ont pas fait état de morts ou de disparus.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le pape François a prôné à Genève l'unité des chrétiens opposée aux guerres et aux divisions qui affectent les plus faibles dans le monde, après une prière commune aux côtés de protestants et d'orthodoxes. Le souverain pontife a accepté une invitation du Conseil œcuménique des églises qui fête ses 70 ans et représente 350 églises et quelques 500 millions de protestants et d'orthodoxes. Le point avec Lionel Gaïma.
Accompagné dans la chapelle du centre œcuménique de Genève, l'évêque méthodiste américaine Mary Ann Swenson a participé à son arrivée à une prière œcuménique aux côtés de 230 participants, le pape François. Que les distances ne soient pas des excuses, il est possible de marcher selon l'esprit, prier, évangéliser, servir ensemble, c'est possible à partir d'aujourd'hui. Ça devrait plaire à Dieu. C'est notre chemin aujourd'hui. François a déploré une planète où les enfants et les personnes âgées deviennent des déchets dérangeants. Les rapports désormais plus apaisés avec les orthodoxes et les protestants s'inscrivent dans le contexte de persécutions ou des attaques terroristes contre des chrétiens, notamment au Proche-Orient.
Le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton est attendu prochainement en Russie, c'est ce qu'a indiqué le Kremlin. Une rencontre qui, selon l'agence Interfax, servirait à préparer un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Selon des médias russes et étrangers, cette rencontre pourrait avoir lieu mi-juillet dans une capitale européenne après le sommet de l'OTAN à Bruxelles prévu les 11 et 12 juillet prochains. Jared Kushner, conseiller et gendre de Donald Trump, le président, et l'émissaire spécial Jason Greenblatt ont été reçus hier au Caire par le président Abdel Fattah al-Sissi. Le président Sissi a défendu la solution à 2 États sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État de Palestine, selon un communiqué de la présidence égyptienne. Messieurs Kushner et Greenblatt sont arrivés mardi en Jordanie où ils ont rencontré le roi Abdallah II. Le mercredi, ils ont été reçus à Riyad par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Cette tournée doit les mener en Israël et au Qatar. En Israël, Sarah Netanyahou, l'épouse du Premier ministre israélien, a été mise en examen pour fraude et abus de confiance, ouvrant la voie à un procès. Elle est accusée d'avoir fait passer près de 100 000 dollars de frais de repas aux contribuables, alors que la résidence officielle dispose d'un cuisinier. Crise migratoire en Europe, l'Italie est hésitante sur sa participation au sommet européen sur les migrations. Rome a fait planer la menace de boycotter ce mini-sommet prévu dimanche à Bruxelles, estimant que les conclusions de cette rencontre sont déjà écrites et ne répondent pas à ses exigences. Dans un message sur Facebook, le nouveau chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a toutefois assuré qu'il serait bien présent à Bruxelles après avoir reçu un appel de la chancelière allemande Angela Merkel. Et le Portugal a affirmé qu'il enverrait une équipe en Égypte en juillet afin de sélectionner des candidats à l'immigration. Oh pardon. Excusez-moi. Le ministère de l'Intérieur a précisé que le Portugal était prêt à accueillir 1010 personnes d'ici l'année prochaine. Un jeune migrant né en 2003 au Soudan a été trouvé à Paris alors qu'il se cachait depuis 2 jours dans le compartiment moteur d'un autocar reliant le sud de la France à la Grande-Bretagne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Tout de suite, le journal du Mondial présenté par Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du Mondial. Une courte victoire pour les Bleus lors de leur deuxième sortie contre le Pérou, 1-0, suffisant pour les propulser en huitième de finale, avec à la clé un record pour l'unique buteur de la rencontre. À 19 ans et demi, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur, Coupe du Monde ou Euro. Mbappé a marqué de près à la 34e minute après une frappe d'Olivier Giroud déviée par un pied péruvien. L'attaquant du PSG a inscrit ainsi son 5e but en 17 sélections. Avant ce match France-Pérou, toujours dans le groupe C, le Danemark et l'Australie ont fait match nul 1-1. Christian Eriksen a ouvert le score pour le Danemark dès la 7e minute d'une superbe volée sous la barre. À la 38e, faute de main dans la surface de réparation danoise, l'arbitre fait recours à la vidéo assistance pour confirmer la faute. Le capitaine australien Miles Jedinak, déjà buteur contre la France, transforme sans trembler pour le 1-1. Un match nul qui permet au Danemark de se rapprocher davantage de la qualification en 8e de finale, avec désormais 4 points juste derrière la France, déjà qualifiée. Suivent l'Australie avec un seul point et le Pérou éliminé de la compétition avec ses 2 défaites en autant de sorties. Demain vendredi, un représentant africain refait surface pour sa 2e sortie. Il s'agit du Nigeria de John Obi Mikel. Les Super Eagles n'ont d'autre choix que de gagner pour se donner plus de chances de voir les 8e de finale. L'effet climat s'est invité en conférence de presse d'avant-match. Le sélectionneur de l'Islande pense que jouer sous 30 degrés Celsius est plutôt un avantage pour le Nigeria. Haimir Hallgrimsson.
Nous avons joué dans la chaleur contre l'Argentine. C'était une étape difficile. Il fait un peu plus chaud ici. C'est probablement mieux pour le Nigeria que l'Islande, que de jouer dans cette chaleur à cette température. Mais nous penserons à la température pour peaufiner notre stratégie. Tout compte fait, tout le monde doit jouer sous les 30 degrés Celsius, alors nous devrons simplement faire comme tout le monde.
C'était donc Haimir Hallgrimsson, le sélectionneur de l'Islande. Nigeria-Islande, c'est justement à 15h temps universel, puis à 18h, Suisse et Serbe croiseront les crampons. Mais bien avant ces 2 matchs, on aura droit à un duel américain-Brésil-Costa Rica à midi temps universel. Touché hier à l'entraînement, la star du Brésil Neymar Junior se dit tout de même apte à jouer. Il ne pense qu'à la victoire. Écoutons Neymar.
Nous avons de grosses attentes pour le 2e match contre le Costa Rica. Nous espérons faire mieux que nos débuts et nous voulons gagner. Nous allons à ce match pour gagner et jouer très bien.
Un match que va suivre Sepp Blatter, ex-président déchu de la FIFA, invité spécial du président Vladimir Poutine. L'ancien patron du football mondial se sent bien accepté malgré le scandale de corruption qu'il a éjecté du siège du président de la FIFA. Sepp Blatter.
J'étais invité par la Russie pour venir ici et puis ils m'ont fait un programme. Je suis le programme. Alors je suis arrivé, on a vu le match. Je pars sur Saint-Pétersbourg, je vais voir Brésil-Costa Rica, puis après je rentre. Mon président me mettait dans une voiture, on me transportait à droite, à gauche et là je suis là-dedans. Je rencontre des Sud-Américains, des Africains, de tout. Et puis ils disent « Ah, mais c'est Blatter, c'est émotion pure. » Et voilà, c'est ce qui est le football. Et ça me fait beaucoup de plaisir de dire, il vit encore, il est encore là. Je me sens un peu suspendu par cette commission d'éthique de la FIFA, mais quand je viens ici, je me sens accepté.
C'était donc Sepp Blatter, ex-patron de la FIFA. Ainsi va le foot, c'est ici que s'achève ce journal du Mondial.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Côte d'Ivoire, 48 heures après les inondations qui ont fait 20 morts et d'importants dégâts matériels, le président Alassane Ouattara a rendu visite cet après-midi aux sinistrés. Des sinistrés toujours en état de choc, nous dit Georges Ibrahim Tunkara, le correspondant de la VOA Abidjan.
Rentré précipitamment mercredi nuit de Paris où il se trouvait, le président ivoirien était ce jeudi sur le terrain pour apporter son réconfort aux victimes des inondations de ce début de semaine. À la Riviera Alaba, l'un des quartiers durement frappés par les averses qui se sont abattues sur Abidjan, les populations ont du mal à réaliser ce qui leur est arrivé dans la nuit de lundi à mardi. Diallo Mariam, la quarantaine révolue, dit avoir tout perdu.
On a tout perdu en fait. On n'a plus rien. 24 ans de vie, il n'y a plus rien. En une nuit, tout est fini. On était sous le manguier de 3h à 7h du matin. On a tout perdu, il n'y a plus rien.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État, du président qui est venu vous voir?
Qui nous aide à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça se répète. Déjà ça, parce qu'il y a, ma voisine qui est décédée, qui a été emportée par l'eau. Et voir ce qu'il peut faire pour nous, parce que les enfants, on a tout perdu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire.
Hippolyte Kwame est fonctionnaire. Assis devant le peu d'objets qu'il a pu extraire des eaux, il se demande de quoi demain sera fait. Il dit attendre de l'État que des mesures vigoureuses et durables soient prises pour que pareil désastre ne se reproduise plus.
Aujourd'hui, psychologiquement, nous sommes très affectés. Et moi particulièrement, j'ai pratiquement tout perdu. J'ai pratiquement tout perdu, mes parents, ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, nous sommes complètement abattus. Abattus et très découragés parce que là, il faut reconstruire encore. C'est ce qui nous... C'est en fait, c'est cette crainte-là.
Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État?
Moi, personnellement, comme je le disais à tous les jeunes ici, je leur disais que concrètement, ce que j'attends, c'est qu'il y ait en fait de nouvelles voies de canalisation qui soient ouvertes et qui ne soient pas orientées vers notre cité. Si, au niveau de l'État, ils peuvent essayer d'ouvrir de nouvelles canalisations qui seront orientées ailleurs, ce serait en fait l'idéal pour nous.
Le gouvernement a annoncé une aide de 2 milliards pour les victimes de ces inondations. De nombreux Ivoiriens sont également mobilisés pour apporter de l'aide aux sinistrés. Il s'agit surtout des vivres, des vêtements, des bouteilles d'eau minérale et des médicaments. Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique, Abidjan.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le chef de file de l'opposition nigérienne, Ama Amadou, est déchu de son statut de député national par arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en début de semaine. Cette autre décision de justice concernant l'ancien président du Parlement remet sur la table la question de sa candidature aux élections présidentielles prévues en 2021. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, a recueilli quelques réactions résumées dans ce reportage.
Au niveau du parti de M. Ama Amadou, c'est sans surprise que ce arrêt de la Cour constitutionnelle est accueilli. Bana Ibrahim, un des responsables de la jeunesse du moderne FA Lumana.
Ama Amadou n'a jamais siégé à l'Assemblée, puisqu'il était à l'extérieur quand il a été élu. Il n'a profité d'aucune immunité politique liée à son statut de député. Il n'a bénéficié d'aucun émolument en tant que député. Mais puisqu'on veut continuer à le harceler, on va jusqu'à faire une parodie pour pouvoir demander à la Cour, la même Cour qui a rendu un arrêt en 2017, dans laquelle la Cour elle-même a reconnu, lorsqu'il était question d'apprécier le code électoral, que la condamnation par contumace ne peut être regardée comme une condamnation définitive. Donc l'un dans l'autre, ça ne nous surprend pas. Nous sommes dans un pays où nous avons fini depuis longtemps d'intégrer dans notre conscience et dans notre discours qu'il n'y a pas de justice au Niger.
Malgré toutes ces décisions de justice, Ama Amadou persiste et signe qu'il se présentera aux élections à venir, pas plus qu'au mois de mai dernier, à l'anniversaire du parti. Il a réaffirmé cela à ses militants depuis la France où il vit en exil.
Je l'affirme et le réaffirme avec force. Vous m'avez désigné comme votre candidat de 2021. Je serai, par la grâce de Dieu, candidat. Personne sur terre ne saurait l'empêcher ou il sera lui-même empêché. Que rien ne vous inquiète et ne vous perturbe par conséquent.
Pourtant, selon les spécialistes du droit, même sans ce arrêt de la Cour constitutionnelle, une candidature du chef de file de l'opposition à la présidentielle de 2021 est déjà compromise par sa condamnation dans l'affaire du trafic de bébés. Amadou Boubacar Hassan, juriste constitutionnaliste.
Ce qu'il faut retenir, même si aujourd'hui la Cour n'a pas constaté la déchéance de sa qualité de membre de député, à partir du moment où la condamnation est devenue définitive suite à l'arrêt de la Cour de cassation, conformément à l'article 8 du Code électoral, M. Amadou ne peut pas être inscrit sur la liste électorale, a fortiori être éligible. Donc, de ce point de vue, pour les élections à venir, M. Amadou ne peut pas être éligible. Lui, avec ce arrêt de la Cour constitutionnelle, M. Amadou est déchu de son mandat parlementaire. Il n'est plus député et par conséquent, il a perdu tous les droits qui sont attachés à la qualité de député, que ce soit l'immunité et tout ce qui s'ensuit.
Abdullah Razak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24. En Guinée, les personnes handicapées physiques subissent l'absence d'une loi qui les protège. Elles sont victimes de plusieurs formes de discrimination, exposées aux railleries, préjugés et stéréotypes. Si ces personnes sont compétentes, elles ont très peu de chances d'être recrutées. Malgré toutes ces difficultés, certains handicapés s'en sortent. De Conakry, écoutons le reportage de Zakaria Camara.
Dans les rues de la capitale ou encore devant les mosquées, de nombreuses personnes à mobilité réduite investissent des espaces pour y mener une activité de mendicité. Elles se disent victimes de discrimination et ne comprennent pas pourquoi aucune loi spécifique ne les protège. Omar a perdu l'usage de ses membres inférieurs, même s'il ne manque pas de volonté de travailler. Se déplacer reste un calvaire pour lui.
Chacun de nous sont logés très loin d'ici. Le matin, quitter là-bas de se rendre au service, ça a tout à fait problème. Il y a plein d'embouteillages. Il y a d'autres aussi qui refusent de prendre nos amis handicapés, de les rendre là où ils vont. Nous avons énormément de problèmes.
Vivre avec un handicap physique à Guinée, c'est souffrir le martyr, dénoncent tous. Ces personnes ne sont pas parmi les priorités des recruteurs en dépit de leurs compétences. Omar est membre d'une association pour la protection des handicapés. C'est dans un conteneur installé en face des bureaux de la mairie de Matoto que différents métiers sont exercés. Devant sa machine à coudre, Matamara n'entend pas se retrouver à la rue. Je fais la couture pour éviter de faire la mendicité. Je préfère vivre de mon métier. Nous faisons beaucoup de choses ici, comme le tricotage. Face au vide juridique, certaines personnes handicapées tentent du mieux qu'elles peuvent pour sortir d'une situation de précarité. Ibrahima Djani est le président d'Action pour le futur des personnes handicapées en Guinée. Selon lui, on peut réussir même avec un handicap physique.
En Afrique, plus particulièrement en Guinée, une fois qu'on est handicapé, donc on est foutu, on n'a pas de droit, on n'a aucune considération. Partout où vous passez, vous verrez les personnes handicapées voir la rue pour faire que la mendicité. Mais nous, on s'est dit, non, l'handicap n'est pas synonyme de la mendicité. Un handicap n'est pas une fatalité. On peut être handicapé, être utile pour soi, être utile pour ta famille, être utile pour ta nation.
L'ensemble des personnes à mobilité réduite attend l'adoption d'une loi qui devrait corriger une forme d'injustice silencieuse. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Oui,
RDC, 26 cas de polio enregistrés ces derniers mois sont des dérivés du vaccin administré à des millions d'enfants. La maladie a pourtant déjà été éradiquée dans le pays. Eddy Isango a joint à Kinshasa le directeur du programme élargi de vaccination, le docteur Guillaume Ngoyi Mambwa.
C'est une situation de mutation des virus, des souches qui sont utilisées dans le vaccin contre la polio, la souche du type 2 utilisée dans le vaccin polio oral qui arrivait au niveau des populations qui ont une insuffisance immunitaire collective peut arriver à se comporter maintenant comme étant des sauvages.
Est-ce qu'il y a un autre facteur qui favorise cela aussi?
Chaque corps ne se comporte pas de la même manière lorsqu'on introduit une substance étrangère. De la même manière, le vaccin, lorsqu'il est introduit dans le corps humain, donc chacun réagit de sa façon pour convertir en une immunité, en une protection.
Mais là, on parle de dérivation.
Lorsqu'on parle du virus dérivé de la souche vaccinale, donc c'est-à-dire le virus qui est dans le vaccin, il est là pour protéger, pas pour créer la maladie. Maintenant, dans les conditions précaires telles que nous avons dit, donc des mauvaises protections de la communauté lorsque la communauté n'est pas vaccinée, lorsque on vient vacciner les populations qui ne sont pas à même de convertir le virus du vaccin en une protection, ce virus peut faire une mutation et se comporter d'une autre manière lorsqu'il arrive au niveau du tube digestif de ces enfants-là.
Comment managez-vous cette information de mutation de virus des souches vaccinales avec toutes les appréhensions qu'il y a autour de la vaccination?
Cette mutation se fait dans un environnement de faible immunité collective. C'est-à-dire qu'à des endroits là où nous n'avons pas pu vacciner un grand nombre d'enfants. On n'arrive pas à vacciner tous les enfants. Comme vous savez, il y a des enfants qui vivent dans des situations géographiques d'accès difficiles. Parfois, ils ne sont pas couverts. Il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés, tout simplement parce que les parents refusent la vaccination sous le label des sectes religieux. La solution, c'est la vaccination. On doit d'abord vacciner et protéger une masse importante d'enfants pour espérer arrêter ces poliovirus dérivés de la souche vaccinale.
C'était le docteur Guillaume Ngoyi Mwamba, directeur du programme élargi de vaccination à Kinshasa.
Morgane Guiriec en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, gros plan sur la République démocratique du Congo. À 6 mois des élections, le Parlement a ouvert une session extraordinaire ce mercredi à la demande du président Kabila. Les députés et sénateurs doivent débattre du projet de loi sur le statut des anciens chefs d'État, un texte qui pourrait garantir leur sécurité, celle de leur famille et de leur patrimoine. À l'approche des élections, que signifie ce projet de loi sur le statut des ex-présidents? Est-ce un signe que Kabila entend quitter le pouvoir? Le pays s'il prête pour la tenue des élections? On en discute ce jeudi à 19h temps universel.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Curtis Bynum. Au micro, Claire Moragibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Anjamena sur 93.1 FM. Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.